Bonsoir. Le caucus des députés provinciaux condamne fermement ce qu'il qualifie de regain de tueries sauvages des civils en plein état de siège en Ituri. Cette sortie intervient après la mort dimanche dernier de 23 personnes lors des affrontements entre les milices Codeco et Zaïre à Drodo et Guissa dans le territoire de Djougou. Au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi à Bounia, le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri a dénoncé le non-respect des accords de Nairobi 3 signés par les leaders du groupe armé Codeco. Il a également critiqué l'inefficacité, selon lui, de l'état de siège dans l'opération des traques des milices qui n'ont pas encore souscrit à ce processus. Selon la société civile de Mahagi, la situation sécuritaire s'est dégradée ces dernières semaines dans cette province avec des atrocités perpétrées par des combattants résiduels de la Codeco et de la milice Zaïre qui s'affrontent, causant la mort des civils dans plusieurs localités. Comment expliquer la dégradation de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri au moment où plusieurs milices ont adhéré au processus de paix de Nairobi? Nous en parlons ce soir avec Simeon Banga. Il est président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, élu de Djougou. Simeon Banga, bonsoir.
Bonsoir madame, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Katmou.
Professeur Chobera Genonga, professeur à l'Université de Kisangani, Université catholique du Congo, les spécialistes dans les domaines des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Il est aussi chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Professeur Chobera Genonga, bonsoir.
Bonsoir.
Et Sami Adubango, vice-ministre des Affaires étrangères, il est notable de la province de l'Ituri et initiateur du dialogue intercommunautaire de l'Ituri. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment à Bounia, dans la province de l'Ituri. Vous nous suivez sur la 104.9. Et si vous êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Une vingtaine de civils ont été tués dimanche dernier dans plusieurs villages de l'Ituri en proie à des violences communautaires, a annoncé la société civile locale. Isaac Remoyope Guimaté nous font le point de la situation qui prévaut dans cette province.
Bonsoir Isaac Remoyope.
Bonsoir Guimaté.
C'est quoi la situation aujourd'hui dans les territoires de Mahagi et Djougou où se déroulent les affrontements entre la Codeco et les Zaïre?
La situation est toujours tendue dans les territoires de Djougou, plus précisément dans les localités de Largo, Bloukwa et Dissa, qui sont cernées par le groupe armé Codeco. Les miliciens des Zaïre ne sont pas perceptibles pour le moment depuis le meurtre d'un enseignant attribué dimanche à ce groupe armé qui a fait exacerber les violences dans la zone. En représailles, les assassins de la Codeco ont tué 23 personnes au centre commercial de Largou, à la paroisse catholique de Drodro et au village de Dissa et de Bloukwa. Et dans les territoires de Mahagi, un calme précaire s'observe depuis le 25 décembre dernier, après les affrontements entre Codeco et Zaïre dans les groupements en Aldé.
Et qu'est-ce qui est à la base de l'escalade de violence après Nairobi 3, où la majorité des groupes armés ont signé l'accord de paix?
Pour les leaders du groupe armé Codeco, ils accusent la milice Zaïre, qui n'a pas participé au processus de Nairobi, d'attaquer leur position dans plusieurs localités dans les territoires de Mahagi et Djougou. Un acte qualifié de provocation. Et cela a été suivi des affrontements qui a fait plus de 30 morts et environ 5000 maisons incendiées et le déplacement de plus de 60 000 personnes dans les territoires de Mahagi. Et depuis dimanche, les miliciens de la Codeco ont multiplié les attaques vers Largou après le meurtre d'un enseignant, comme nous l'avions dit, par la milice Zaïre, et cette fois c'est dans les territoires voisins de Djougou.
Isaac, quelles sont les dispositions prises par les FRDC pour mettre fin à ces violences?
L'armée s'est interposée pour dissuader les deux groupes armés lors des échanges de tirs dans les deux entités territoriales. Et selon des sources militaires, l'effectif des militaires a été également renforcé dans ces entités pour sécuriser la population. Hier mardi, l'armée a neutralisé 12 miliciens de la Codeco qui ont tendu ou qui ont voulu tendre l'embuscade contre les véhicules sur les tronçons Bounia-Mahagi sur la route nationale numéro 27. Les autorités provinciales demandent à ces groupes armés signataires de l'accord de paix ou non de cesser les violences et de respecter leur engagement pour la cessation des hostilités, car l'approche actuelle est le dialogue. sinon ils seront traqués par les forces loyalistes pour restaurer l'autorité de l'État en Ituri.
Merci Isaac Yeremoyopé.
Merci Guy Maté.
Siméon Banga, je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri et élu de Djougou. Vous avez tenu une conférence de presse hier mardi à Djougou, au cours de laquelle vous avez dénoncé notamment le non-respect des accords de Nairobi 3 signés par les leaders du groupe armé Codeco. Vous avez également critiqué l'inefficacité, selon vous, de l'état de siège dans l'opération des tracts des milices qui n'ont pas encore souscrit à ce processus. Comment vous expliquez, Siméon Banga, la dégradation de la situation sécuritaire dans cette province alors qu'une certaine accalmie semblait s'observer il y a quelques mois?
Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur la question sécuritaire de l'Ituri. Nous voulons avant tout présenter nos sincères compassions et tristes condoléances à toutes ces familles qui ont vu leur périr dans cette situation que l'Ituri est en train de vivre actuellement. Et il est vrai que depuis 5 ans, l'Ituri est en train de passer de moments très durs de son histoire. Une question sur laquelle beaucoup ont déjà travaillé, les gouvernements central, provincial et les notables, ils sont en train de travailler sur cette question, mais jusqu'aujourd'hui, la situation n'est toujours pas encore résolue. Nous sommes en train chaque jour de déplorer des cas de tuerie, de pillage et autres dans la province de l'Ituri. Et le chef de l'État qui a manifesté sa volonté de voir la province de l'Ituri pacifiée et qui a décrété l'état de siège pour que cette question soit résolue. Et malheureusement, nous voyons que rien ne va sur terrain. Alors, il faut dire que, madame, il est vrai que l'état de siège a été décrété en Ituri pour imposer la paix et que, bien que l'état de siège a été décrété, l'Ituri n'a cessé d'enregistrer des pertes à vie humaine du côté des civils innocents. Et s'il y a eu une accalmie, je crois que cette accalmie s'est observée après ces dialogues qui se sont tenus à Nyakounde et à Kwandroma. Et où, qui se sont soldés par cette signature des actes unilatéraux des groupes armés. Et c'est ça, ce qui a fait qu'on a senti un peu d'accalmie. Et malheureusement, au lieu de capitaliser cette accalmie, nous sentons que sur le plan sécuritaire, en tout cas, rien ne va parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à ce niveau. Il a fallu que les gouvernements puissent aussi faire sa part parce que les notables, les communautés qui se sont données, ils ont travaillé et on a senti cette accalmie. Mais malheureusement, rien ne va sur terre ces derniers temps et c'est comme ça que nous sommes en train de vouloir dire à haute voix que, en tout cas, sur le plan sécuritaire, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est rien contre que le fait que la mission assignée à l'état de siège a été déviée et maintenant là, les autorités de l'état de siège ne se préoccupent plus de la sécurité, ils sont dans leurs affaires privées, ils ont laissé la sécurité de la population comme ça, donc ils ne se préoccupent plus de la situation sécuritaire de l'Ituri.
Et c'est ça qui explique, selon vous, Siméon Banga, la dégradation de la situation sécuritaire dans la province.
Madame, imaginez, avant l'état de siège, il y a eu des opérations parce que l'imposition de l'autorité de l'État signifie les opérations. Lorsque on a décrété l'état de siège, l'Ituri s'attendait à ce qu'il y ait des opérations de grandes envergures en Ituri, comme ça a été avant l'état de siège sur Ouago, sur Ezekere. Mais malheureusement, pendant l'état de siège, il n'y a eu aucune opération qui n'a été organisée. Bien que les députés provinciaux que nous sommes et les notables de l'Ituri ont voulu laisser aux autorités de l'état de siège la liberté de travailler dans le calme. Je crois que depuis que l'état de siège a été décrété jusqu'aujourd'hui, le Congo n'a jamais attendu, le monde n'a jamais attendu la voix des députés provinciaux critiqués ou faire des pressions, mais ils ont voulu que l'état de siège travaille comme dans l'objectif fixé par les chefs de l'État. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune opération n'a été lancée.
à part ce dialogue qui a été initié, bien sûr, appuyé par la MONUSCO, par donc ce dialogue intercommunautaire qui se sont passés à Nyakoundé, à Kwandroma, et à part ce dialogue qui a donné le résultat, en tout cas, sur le plan sécuritaire, nous voyons que seulement pendant l'état de siège, notre armée, mais que nous connaissons très forte, n'a jamais mené des opérations, mais ont mené justement les opérations défensives, quoi. Donc c'est ça un peu la situation que nous sommes en train de vivre en Ituri.
Siméon Benga, vous avez critiqué l'inefficacité dans l'opération des tracts des milices qui n'ont pas encore souscrit au processus de Nairobi. Est-ce que cela signifie que ces milices se promènent librement dans la province et commettent des exactions sans qu'elles ne soient poursuivies ou arrêtées par les FRDC? Ou encore neutralisé par les FRDC.
Madame, il y a jusqu'aujourd'hui, il faut être clair, il n'y a pas même un seul groupe qui a été neutralisé en Ituri. Tous les groupes sont là, il y a des groupes qui ont signé bien sûr, qui on a senti, ont montré leur volonté lorsqu'ils ont signé des actes unilatéraux, on a senti qu'il y a eu la calmie, ça c'est connu de tous quand même. Vous-même vous l'avez dit au début de cette émission que on a senti la calmie en Ituri, c'était justement après la signature de ces actes unilatéraux. Mais à côté de ces actes, de ces groupes armés qui ont signé les actes unilatéraux, il y a d'autres groupes qui n'ont jamais adhéré dans ces processus, dont les Zaïre, ils n'ont jamais adhéré dans ces groupes, dans ces processus. Et maintenant, des fois, ils arrivent à attaquer ou à tuer des civils et attaquer des fois selon les certaines positions des groupes dites qui ont signé les actes unilatéraux. Alors, c'est aussi ça. Ce qui fait que des fois il y a des exactions. Mais pour moi, je crois que les exactions ne pouvaient vraiment pas être justifiées, les exactions, si réellement l'autorité de l'État, les autorités poussaient, donner des orientations militaires pour imposer la paix, parce que nous avons une armée capable d'imposer la paix, mais malheureusement, il n'y en a pas.
Alors, il y a certaines sources qui nous rapportent que si aujourd'hui la province fait face à cette escalade des violences, de cette dégradation de la situation sécuritaire dans l'Ituri, c'est parce qu'il y a une certaine manipulation de certains leaders, de certains notables du coin.
Mais malheureusement, ça ne se prouve pas. Même s'il y a, de la manipulation, je crois que la manipulation, lorsqu'on a donné un pouvoir exorbitant aux autorités, madame. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit depuis un moment donné, il fallait arrêter ceux qui sont en train de manipuler, qu'on est en train de soupçonner, en train de manipuler. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça ressemble à des accusations gratuites. Mais s'il y en a, il faut les arrêter. Parce que le pouvoir a été donné aux autorités, et des pouvoirs exorbitants pour imposer la paix. Et c'est là. Ne justifie vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui en Ituri.
Professeur Chobert Agenonga, professeur à l'Université de Kisangani et à l'Université catholique du Congo, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Vous êtes aussi professeur, chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Professeur, comment vous expliquez cette situation? On a vu des groupes armés adhérer au processus de Nairobi. Une certaine accalmie semblait être observée sur terrain, mais il y a quelques semaines, la situation s'est dégradée d'un coup. Comment on peut expliquer cela?
Bien, je tiens à préciser que ce ne sont pas tous les groupes armés de l'Ituri qui ont été partie prenante au troisième round de négociations de Nairobi qui s'est déroulé, je pense, entre fin novembre et début décembre 2022, et qui a débouché sur des résolutions signées le 6 décembre dernier. Et les différents groupes qui sont liés à CODECO ont été représentés au troisième round des négociations de Nairobi, au même titre que les leaders de la FPC et de la FRPI. Et en revanche, les leaders de ce que certains appellent en Zaïre n'ont pas participé à ces dialogues et du coup, vous savez, sur le plan juridique, eh bien les accords produisent des effets juridiques à l'égard de ceux qui l'ont signé et non pas à l'égard de ceux qui ne l'ont pas signé. Mais on parle de Zaïre. À ce titre, je voudrais apporter quand même une précision. Les combattants qu'on appelait Zaïre revendiquent aujourd'hui leur appartenance au sein de notre mouvement appelé MAPI, c'est-à-dire Mouvement d'autodéfense pacifique en Ituri. Et c'est depuis l'apparition officielle de ce groupe qu'on assiste aujourd'hui à l'extrême dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire de Ndjougou. Et c'est à cause, évidemment, des provocations ou des affrontements entre le MAPI et les groupes CODECO. Mais comme votre reporter l'a résumé, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la Sakina, je pense, d'un instituteur qui appartiendrait à la communauté Lendu. Et j'en profite pour rappeler que le porte-parole de CODECO, en Bassa Zupa, avait dit que à chaque fois qu'un sujet Lendu serait tué, cela vaudrait le massacre de 1000 sujets EMA. Et c'est comme, j'ai comme l'impression que c'était à quoi on a assisté. Alors, mais qu'est-ce qui explique exactement en ces revirements en sécuritaire? Il y a d'une part des causes conjoncturelles et d'autre part des causes structurelles. Mais je voudrais commencer par les causes conjoncturelles. Alors, sur le plan conjoncturel, le constat que l'on fait sur le terrain, nous constatons qu'il y a des groupes d'armées dans les uns sont partie prenante à l'accord de paix de Nairobi. Les autres ne sont pas liés par en cet accord de paix, en ce qui pourrait évidemment justifier aussi l'animosité ou la belligérance. Mais je pense que ce revirement pourrait aussi s'interpréter comme une pression que le MAPI, qu'on appelle le Zaïre, voudrait mettre pour que lui aussi soit considéré, soit réintégré dans le processus de Nairobi. Et la deuxième cause conjoncturelle, je dirais, c'est le retard dans le processus d'EDR. Vous savez, c'est depuis le mois de juillet que le chef de l'État a suivi le programme national de désarmement et le s'arrête pour donner ce qu'on appelle le fait de DFCS et qui n'a pas commencé en le travail. Alors, les causes structurelles que je considère comme étant les causes profondes, c'est entre autres à la faiblesse de l'appareil sécuritaire. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on est dans le territoire de Ndjougou, on constate que de nombreuses positions militaires ont été dégarnies. Du coup, ça crée ce que nous appelons le vide sécuritaire. Et ce sont ces vides sécuritaires exactement qui profitent du mouvement cyberpuissant. Mais à ça, je voudrais aussi ajouter un élément important lié à la déficience de moyens logistiques et aussi la dégradation des transports routiers dans le territoire de Ndjougou ou ailleurs. Vous savez que les militaires qui sont déployés dans le territoire de Ndjougou, je pense que tout le monde le sait, ils n'ont pas tous les moyens, ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont pas ils n'ont pas d'hélicoptères de transport, etc. qui leur pourraient bien sûr donner ce que nous appelons, qui pourraient leur conférer les capacités proactives, c'est-à-dire les capacités à pouvoir dissuader le menace, à pouvoir dissuader les armées et en cas de menace. Mais le diagnostic sur le terrain démontre que les affrontements aussi entre les groupes liés à CODECO et le Zaïre ou le MAPI s'expliquent aussi par notamment la velléité des contrôles des sites miniers dans ce territoire. C'est le constat que nous avons fait notamment dans la région de Mouvalou, qui est extrêmement en riche en gisement de l'or.
Professeur Chobert Aguenonga, vous avez parlé de la faiblesse de l'appareil sécuritaire. Est-ce qu'il faut comprendre par là que ces miliciens ou ces groupes armés sont mieux équipés que les FRDC?
Alors là, il faudrait plutôt dire que nous sommes présents d'une guerre asymétrique. Donc la guerre asymétrique s'explique par le fait que les miliciens qui sont en train d'opérer dans le territoire de Ndjougou sont plutôt dissimulés dans la population et du coup ça rend extrêmement difficile les opérations militaires dans ces territoires. Et là aussi il y a un certain déphasage de l'approche que l'armée est en train d'employer. Donc nous avons constaté que l'armée utilise les stratégies conventionnelles alors qu'elle fait face à une guerre non conventionnelle, ce que nous appelons en asymétrie. Et là, pourtant, dans la stratégie militaire ou dans toutes les études militaires, lorsqu'on fait face à une telle opération, à une telle guerre, eh bien, il faut procéder par le contrôle du mouvement de la population, c'est-à-dire il faut gagner et la confiance de la population, il faut contrôler les lignes d'approvisionnement de toutes les bandes armées. Mais pour répondre directement à la question de savoir est-ce que les bandes armées sont plus équipées que le militaire, la réponse est bien évidemment non. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'infériorité numérique. Donc, et c'est l'infériorité numérique, je le dis tantôt, qui a créé de vides sécuritaires. Et ces vides sécuritaires profitent aux bandes armées, vous comprenez. Donc, le militaire n'ont pas des effectifs susceptibles de couvrir pratiquement toutes les agglomérations où habitent les civils pour se rassurer que les civils sont efficacement sécurisés. Et certaines indiscrétions, il semblerait que c'est depuis la résurgence du F-23A que certaines positions des FADC ont été dégarnies dans le territoire de Djougou, et on a vu Codeco effectivement revenir pour occuper toutes ces positions. Alors, je parlais tantôt de la guerre asymétrique. Vous savez, la guerre asymétrique, telle que ça se déroule dans le territoire de l'Ituri, il faut la comprendre. C'est-à-dire, nous sommes en présence des miliciens qui sont profondément ancrés dans les communautés. Alors, si les militaires doivent employer les moyens conventionnels, cela reviendrait à dire que on risquerait de tuer à la fois le milicien et les civils. Voyez-vous, donc ça complique les opérations. C'est la raison pour laquelle le choix de moyens et le choix des approches me paraissent fondamentalement importants pour évidemment adapter les stratégies militaires de FADC aux dynamiques sécuritaires sur le terrain.
Merci, professeur Chobert Aguenonga. Nous attendons toujours le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango, qui doit participer aussi à cette émission. Il est notable de la province de l'Ituri et initiateur du dialogue intercommunautaire de l'Ituri. La réalisation n'arrive pas à le joindre. Alors, en attendant que nous puissions avoir Sami Adubango dans ce débat, on va prendre ces nombreuses réactions des auditeurs qui appellent sur notre standard. Siméon Banga, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Junior Bompongo depuis Kinshasa. De mon humble avis, l'adhésion de plusieurs milices au processus de paix de Nairobi manque de sincérité, ce qui fait que certains groupes rebelles, égouts de leur comportement belliqueux, s'activent à des incursions et viols armés dont l'objectif est de saboter ces processus de paix qui jusqu'ici demeurent l'option diplomatique importante pour la paix dans les zones à problème. Par ailleurs, ce n'est un secret des polichinelles que l'état de siège est inefficace. Et d'ailleurs, le président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées, avait même réitéré le vœu de pouvoir envisager sa réqualification. Reste à savoir pourquoi jusqu'à ce jour, son discours par rapport à ce sujet reste une feuille morte. Doit-on encore attendre que la CADECO s'active gravement afin de venir déplorer qu'elle est lourdement armée que nos forces loyalistes? Nous signalons en passant que présentement, à Djougou, c'est le sauve qui paie.
Alors, Siméor Banga, cet auditeur pense que l'adhésion de certaines milices au processus de paix de Nairobi manquait de sincérité.
Madame, je crois que on ne sait vraiment pas dire si ceux qui ont adhéré dans ce processus de paix ont manqué la sincérité ou quoi. Mais ce qui est vrai, que lorsque ces groupes armés ont signé leurs actes unilatéraux, vous-même vous l'avez dit, on a senti à Ituri quand même une accalmie. Mais le problème, c'est que nous voyons que cette accalmie n'a pas été vraiment appuyée ou maîtrisée, consolidée, disons. Donc, il a fallu que l'État fasse ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, le PDDRC devait arriver pour que cette accalmie soit vraiment soit transformé à une sorte de paix en Ituri dont l'Ituri a besoin. Donc la sincérité ou pas, nous ne savons pas vraiment le juger, mais ce qui est sûr est que lorsque les actes ont été signés, on a senti quand même l'accalmie. Et c'est seulement aujourd'hui lorsqu'on sent que de la part du gouvernement, rien n'évolue et que voilà, aujourd'hui, la situation est en train de reprendre encore en Ituri. Mais aussi, il faut dire, l'état de siège qui est décrété en Ituri, le professeur Chaubert l'a bien su dire, que sur le terrain, effectivement, il y a des problèmes, l'effectif et autres, mais aussi les autorités de la province, bien que, vous savez, avant l'état de siège, je l'ai dit avant, il y a eu des opérations, il n'y en a jamais eu pendant l'état de siège. C'est que, pour eux, on se demande, est-ce qu'ils se préoccupent vraiment de la situation sécuritaire de la province? C'est vraiment difficile à dire en Ituri, parce que, en tout cas, il n'y a rien de l'état de siège. C'est pourquoi nous continuons toujours à demander au chef de l'État, au lieu de requalifier, parce que même la requalification, on ne sait pas ce que ça veut réellement dire, au lieu de requalifier, il faut seulement lever l'état de siège et laisser aux civils, parce que déjà, on est dans les stades où on est en train, l'état de siège est en train de négocier, l'état est en train de négocier avec les civils. Et ce n'est pas un militaire qui va négocier quand même avec les gens, avec les rebelles. Et ce stade-là, je crois que c'est avec les civils que ça peut se faire.
Alors, vous demandez à ce qu'on puisse lever l'état de siège. Il y a les députés nationaux de l'Ituri qui demandent plutôt au chef de l'État d'instruire le gouvernement de la République d'accélérer avec la mise en œuvre de la table ronde promise afin de trouver une alternative à l'état de siège. Il faut d'abord une table ronde qui vous permettra de trouver une alternative à l'état de siège.
Madame, ici, c'est le problème de la vie des personnes. Il y a des gens qui sont en train de mourir. La table ronde, depuis, ça c'est presque déjà une année que ça a été annoncé jusqu'à aujourd'hui, où elle n'est pas encore tenue. Et nous pensons qu'au lieu de continuer à attendre et cette table ronde, il est important que l'état de siège soit tout simplement levé et que les élections des gouverneurs soient organisées en Ituri pour que les civils puissent diriger la province et avec conscience et continuer la recherche de la paix à la province de l'Ituri. Parce qu'aujourd'hui, la recherche de la paix en Ituri n'est plus dans le stade d'imposition de la paix, mais c'est la paix a en train d'être négociée aujourd'hui à l'Ituri. Et cette négociation n'est pas de l'apanage des militaires. Et les militaires, lorsqu'ils voient qu'ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas négocier, ils sont libres, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ne sont pas en train d'imposer la paix en Ituri. Donc pour nous, il faut lever l'état de siège et laisser aux civils de continuer la négociation de cette paix-là pour que la paix revienne en Ituri. Et lorsqu'on est en train d'attendre la table ronde, madame, il y a des gens qui sont en train de mourir depuis que cette table ronde a été annoncée. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez combien sont morts aujourd'hui en Ituri? Non, je crois que si vraiment on veut qu'on a vraiment le souci que la paix ou une accalmie soit en Ituri, je pense qu'il est important qu'on puisse au moins changer les tirs.
Hein,
pas continuer à penser à ce qui ne peut pas donner la paix à Ituri. L'état de siège ne peut jamais donner la paix à Ituri, tel que nous sommes en train de le voir à Ituri ici.
Professeur Chaubert Hagenunga, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
Doube Mwenemboka, j'appelle à partir de Beni au Nord Kivu. La dégradation de la situation sécuritaire en Ituri est un signal fort au gouvernement congolais par les milices pour montrer leur diversion. Sans la force, aucun groupe armé ne cessera les hostilités. Croire au processus de Nairobi est un aveu d'échec.
Professeur, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que cet auditeur, selon lui, il estime que le processus de Nairobi est un projet mort-né de paix. Est-ce qu'il a raison ou pas? Mais le constat sur le terrain démontre que ce n'est pas la première fois que les bandes armées actives en Ituri signent un accord de paix. On se rappellerait qu'en 2020, sous les auspices d'une délégation de la présidence, les différents groupes CODECO avaient signé 5 accords au total qu'ils avaient appelés les actes d'engagement unilatéraux pour la paix. Mais là, on avait réellement senti quand même la calmie. Malheureusement, il se fait que les choses ont traîné à longueur. Le gouvernement n'a pas mis le moyen en jeu pour faire sortir les rebelles de la brousse. C'est ainsi que la situation s'est rapidement emballée. Et la même situation, nous sommes en train de la traverser avec la FRPI qui a signé un accord de paix depuis le 28 février 2020 et jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans environ. Les combattants de la FRPI sont en instance de pré-campement dans le site d'Azita, dans le territoire du Rumu. Malheureusement, le gouvernement n'a déboursé aucun rond pour donner le go au processus de désarmement afin que ces combattants, afin que le sort de ces combattants soit clairement défini. Alors, après les actes d'engagement auxquels je faisais le don tantôt, il y a eu bien d'autres accords qui ont été signés. Je pense que mon co-débatteur a parlé notamment de l'accord de Kandrouma Réti qui était signé en début juin 2022, que j'ai suivi à la loupe, et cet accord est même présenté devant le gouverneur militaire en Ituri. Malheureusement, ça n'a pas produit des résultats escomptés, et on a commencé par le premier round de négociations de Nairobi, deuxième, troisième, etc. Mais juste aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les engagements que les rebelles ont pris n'ont pas pu ramener la paix. Donc du coup, il faut repenser l'approche. Et j'en profite pour le rappeler que dans les stratégies militaires, eh bien, la gestion de conflits s'effectue sur base de la stratégie fight and talk. C'est-à-dire le dialogue avec le rebelle n'exclut pas le fait de la force. C'est ce qui est en train de manquer lorsque les gouvernements, lorsque les groupes armés s'engagent dans le processus de négociation avec le gouvernement. Les discours que les militaires nous disent, non, écoutez, même si ces rebelles continuent à attaquer, eh bien, nous ne pouvons rien faire parce que ils sont engagés dans le processus de paix, de négociation avec le gouvernement. Là, je pense que c'est une entorse flagrante. Donc, personnellement, je pense que la seule approche politique ou diplomatique ne va en rien apporter une paix durable à l'Ituri. Par contre, il faut repenser cette approche parce que la paix est la résultante d'une approche globale combinant à la fois le dialogue, le recours à la force, mais aussi le désarmement. Alors, beaucoup pensent que le désarmement, le PDFCS, pourrait constituer une solution à cette problématique de paix en Ituri. Mais moi, je pense qu'il se trompe éperdument. Parce que le PDFCS ne réussira rien aussi longtemps que les groupes armés ne se sont pas résolument engagés dans le processus de paix. Or, l'on s'aperçoit que les groupes armés s'engagent le matin dans le processus de paix et le soir, ils reprennent les hostilités.
Professeur Chaubert Aguenonga, comme vous le savez, nous sommes en plein processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il y a la société civile de Mahagui quand même qui s'inquiète hein, de la situation actuelle dans la province de l'Ituri. Cette société civile craint que ces opérations d'identification et d'enrôlement ne puissent pas se tenir dans la province de l'Ituri à cause justement de cette situation qui est en train de se dégrader.
Alors, je pense que c'est trop tôt maintenant pour en dire que les dynamiques sécuritaires en Ituri risqueraient d'influer négativement sur le processus d'enrôlement qui a commencé. On a encore du temps qu'on peut mettre à profit pour éviter à ce que l'enrôlement
n'ait pas lieu en Ituri. C'est dans quelques semaines que ça commence dans la province
exactement,
de l'Ituri, début février.
Semaines, le gouvernement je pense que ce qui manque aussi en Ituri, c'est la volonté politique. Avec un peu de volonté politique, je pense que la situation sécuritaire en Ituri peut évidemment être maîtrisée. Mais ce qui manque aussi à la paix, et ce qui fait croire à certains que l'Ituri serait jeté dans les oubliettes, c'est le fait qu'en Ituri, on n'a eu aucune réaction, excellence radio totale, de la part de la communauté internationale, de la part du gouvernement de Kinshasa, ce qui laisse croire que on ne joue pas assez en faveur de l'Ituri pour planter directement les havres de paix. avec, je pense, un minimum de volonté politique, on peut maîtriser rapidement la situation sécuritaire. En deux semaines, nous avions déjà établi la cartographie des groupes armés en Ituri et nous avions dit que la stratégie la plus efficace dans un premier temps consisterait à contrôler, n'est-ce pas, les différents bastions rebelles en Ituri, c'est-à-dire couper tous les points d'approvisionnement en armes, en munitions et évidemment en rations miliciens. Cela pourrait restreindre leur marge de manœuvre. Cela ne leur permettrait pas d'être libre de mouvement comme nous le constatons maintenant. Mais malheureusement, on ne voit pas suffisamment cette volonté en Ituri. Alors je dis avec un peu de volonté, évidemment, on peut quand même faire le minimum requis pour que l'enrôlement, à la fois l'enrôlement ait lieu à Ituri, mais aussi pour que la population de Ituri, étant souffert des affres de la guerre, puisse quand même en retrouver la paix.
Vous restons en ligne, professeur. On va prendre cette dernière réaction qui nous vient de Ariwara, réaction à laquelle vous allez réagir. Hein. On va commencer par vous, puis on va donner la parole à Simeo Banga.
C'est Sonny Benjamin depuis Ariora en territoire d'Arum. Des accords signés par les groupes armés, mais pas de suite favorable. Cette reprise des hostilités est une sorte de pression faite au gouvernement qui tarde à trouver solution aux problèmes posés. En ces jours, des milices s'affrontent, mais c'est la population civile qui en est victime. On se demande s'il n'y a pas une guerre tribale qui cherche à renaître comme dans le passé. Est-ce qu'on peut dire que la signature de l'accord a été une simple distraction? Le gouvernement est à quel niveau avec les processus de la paix?
Professeur Chebert Aguenongat, très brièvement, comment vous pouvez répondre aux préoccupations de cet auditeur?
Moi, je pense que si les groupes armés s'engagent dans le processus de paix, le gouvernement de Kinshasa devrait mobiliser le moyen pour encadrer, pour accompagner ce processus. C'est ce qui n'a pas pu se faire, malheureusement. Ça pourrait aussi expliquer en partie la persistance des hostilités en province de l'Ituri. Et du coup, on vole du dialogue au dialogue et des dialogues qui ne produisent aucun résultat escompté. Donc, c'est peine perdue, c'est un coup de pied dans l'eau. Alors, je pense qu'il faut repenser toutes ces approches. Si le gouvernement voudrait négocier avec les bandes armées afin que ces dernières puissent s'inscrire dans le processus de paix. Mais le gouvernement doit être conséquent, le gouvernement doit mettre les moyens conséquents, évidemment, pour permettre à ce que ce processus soit mené à bien. Mais même si le groupe d'armées est engagé dans ce processus, et nous savons très bien que ces criminels sont tous affamés, et parfois aussi les attaques qui lancent, et c'est aussi dans le but de s'approvisionner en rations, voyez-vous. Donc, tant que ce processus va s'arriver, il faut toujours s'attendre à ce que les hostilités, les violences perdurent en Ituri.
Nous n'arrivons toujours pas à joindre Sami Adubango, vice-ministre des Affaires étrangères et notable de la province de l'Ituri et initiateur du dialogue intercommunautaire de l'Ituri, qui avait pourtant promis de participer à cette émission. Siméon Banga, président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, vous êtes élu de Djougou. Comment vous réagissez à la réaction de cet auditeur de Harou?
Eh bien, madame, je crois que en Ituri, ce que nous vivons devait vraiment être sur ça devait être la préoccupation majeure du gouvernement, parce que le gouvernement devait vraiment s'en occuper. Mais on sent que c'est comme si au niveau de Kinshasa, la situation de l'Ituri n'est pas prise au sérieux. Parce que si réellement l'Ituri était prise au sérieux, et le gouvernement allait tout mettre en œuvre pour que cette signature des actes soit capitalisée et que même ce programme puisse vraiment être opérationnel sur terrain. Et cela, on pouvait vraiment comprendre que le Kinshasa est en train de prendre la situation de l'Ituri à considération. Tant que la situation de l'Ituri ne sera pas prise la considération, en tout cas pour l'Ituri, nous ne savons pas comment est-ce que la paix reviendra en Ituri. Donc Kinshasa devait manifester cette volonté, mais surtout mettre tout pour que la
paix revienne en Ituri. Donc jusque-là, que ce soit les actes unilatéraux, que ce soit... Donc jusque-là, il y a vraiment pas d'espoir que ça peut vraiment donner solution. Parce que Kinshasa n'a pas encore pris au grand sérieux la situation de l'Ituri.
Siméon Banga, vous en tant que président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, qu'est-ce que vous proposez pour le retour de la paix dans cette province?
Le retour de la paix en Ituri, c'est d'abord la volonté des autorités, la volonté réelle, la volonté de Kinshasa. C'est aussi la prise de conscience des Ituriens eux-mêmes, mais aussi le leadership des gestionnaires de la province de l'Ituri. La façon dont ils sont en train de aborder cette question sécuritaire de la province de l'Ituri, je crois que ça peut donner une solution.
Merci, Siméon Baga. On va considérer cela comme votre conclusion. Professeur Chobert Agenonga, professeur à l'Université de Kisangani et Université catholique du Congo. Je rappelle que vous êtes spécialiste dans le domaine des études de sécurité, des géopolitiques et des sociologies militaires. Vous êtes aussi chercheur principal dans le pilier violence du groupe d'études sur le Congo, GEC, en sigle. Vous avez suivi les propositions de Siméon Banga. Pensez-vous que cela pourrait réellement permettre à la province de recouvrer sa paix?
Alors, ce qui manque pour l'instant à l'appel, je pense, c'est la montée en puissance de forces armées. Et c'est d'ailleurs ce que tout le monde en appelle de tous son vœu. On voudrait vraiment qu'on ait une armée proactive sur le terrain, une armée dissuasive, évidemment, qui soit à mesure de mettre un terme à l'activisme des bandes armées. Et au regard de tous les crimes qui ont été commis en Ituri, il est aussi important que maintenant qu'on puisse penser à une justice transitionnelle. Que tous les crimes du droit international qui ont été commis en Ituri soient sévèrement réprimés, mais en même temps, il faut accélérer aussi le processus en PDFS pour évidemment permettre encore aux beaux citoyens qui voudraient bien contribuer à la reconstruction de cette province de se rendre au gouvernement. Mais on sait aussi que la situation de l'Ituri a une certaine réalité extérieure et pour laquelle il faut également que le gouvernement agisse efficacement sur le front diplomatique. Et enfin, je pense aussi qu'il est important, assez que, je l'avais dit au début, que la situation de l'Ituri relève de ce que nous appelons la guerre asymétrique. Et pour y mettre un terme, eh bien, il faudrait procéder au contrôle du mouvement de la population. On sait qu'il voudrait que le gouvernement puisse repenser le rapport entre le civil et le militaire et aussi caractérisé par une certaine méfiance parce qu'en Ituri, ça il faut clairement le dire, l'armée aussi fait partie de l'insécurité parce que ça et là, on assiste à des tracasseries, les tracasseries à la fois des miliciens et des militaires. Et cela crée une certaine crise de confiance vis-à-vis de la population. Or, la guerre ne se gagne pas seulement sur le front, permettez-moi la topologie, sur le front militaire, mais la guerre se gagne aussi sur base de la confiance de la population. Et il faut absolument gagner cette confiance de la population. Si on gagne la confiance de la population, je pense que tous les miliciens qui se cachent dans les communautés en Ituri vont être dénoncés et les services de sécurité s'occuperont d'eux. Et enfin, il faudrait penser à mettre sur pied le mécanisme d'alerte précoce qui permettrait à ce que la population soit au cœur des dispositifs militaires, de manière à ce que, à chaque fois qu'il y a une menace sur le terrain, que la population puisse la porter au service des services de sécurité pour que ce dernier puisse agir de manière prompte et soit proactif, n'est-ce pas, à contribuer à la sécurité des personnes et de leurs biens.
Merci, professeur Chobert Agenonga, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Malheureusement, Sami Yadobango, vice-ministre des Affaires étrangères, qui devait être avec nous dans ces débats, n'est toujours pas joignable. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, qui l'ont réalisé. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.